Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 2. Monsieur l'abbé Hubertet, de l'Académie des inscriptions à Paris et de celle des arcades à Rome, commençait à ressentir les atteintes de l'âge, bien qu'il eût conservé dans le sien encore beaucoup des avantages de celui qu'il n'avait plus. À 79 ans, il en paraissait 9 ou 10 de moins. Quoique alerte et injambe, et restait-elle, par le mérite d'un corps excellent et d'un appétit soutenu, il éprouvait pourtant une certaine lourdeur des membres et supportait moins aisément le poids de toute sa personne. Il trouvait parfois un peu raide à remonter la pente de sa rue et à grimper l'échelle de ses étages quand il revenait de quelque longue course à pied par la ville. Si la pratique de la vie lui avait fourni la tête de toutes sortes d'idées sur toutes choses et qu'il tenait en bon ordre, elle avait manqué à lui remplir les poches. Aussi ne possédait-il ni chaise, ni carrosse, et il ne comptait guère pour le mener où il voulait que ses larges pieds chaussés de souliers à boucles et à semelles garnies de clous. Son pas lourd retentissait aux escaliers et se décrottait aux paillassons, car rien n'arrêtait l'abbé, ni la neige, ni la boue, ni aucune intempérie. Il restait imperturbable à la saison et, d'après elle, réchauffé ou rafraîchi par son égale bonne humeur. Ses collègues des inscriptions l'estimaient pour cette heureuse disposition et les amateurs prenaient plaisir à voir, dans leur cabinet, sa figure s'éclairer à la vue de quelques pièces rares dont ils savaient vanter mieux qu'eux-mêmes le mérite et le prix. Ils se connaissaient particulièrement en médailles. Sa main semblait réjouie d'en toucher le beau métal numismatique. Il faisait bon le voir, pour en mieux apprécier le relief, pencher sa grosse tête sur sa paume ouverte et courber le dos avec respect et curiosité. Il en possédait lui-même d'assez bonnes et en grand nombre, mais le fait qu'elles lui appartinssent ne lui faisait leur attribuer aucune valeur particulière, sinon celle due strictement à leur perfection ou à leur singularité. L'abbé Hubertet avait vieilli depuis l'époque où, de Pontobel, il partit pour l'Italie à la suite de son évêque. Pendant que M. de la Grangère intriguait aux antichambres et aux sacristies, prêt à mener à bien les affaires du roi dès qu'il aurait assuré les siennes, l'abbé se donnait du bon temps. Il visitait Rome en tous sens. Il s'y lia avec les principaux amateurs d'antiques. M. Hubertet ainsi en réunir un assez bon nombre. Mais tout finit et il fallut revenir. On partit. Rome disparut à l'horizon. Monsieur Hubertet en emportait un grand souvenir. Elle lui apparaissait avec ses dômes et ses clochers au milieu de sa campagne déserte. Des voies pavées la parcourent, de longs aqueducs la traversent de leurs enjambées de pierre, et on croit entendre le pas éternel de leur marche gigantesque et immobile. Le retour fut morose. Il fallut subir en route les dépits et les plaintes de M. de la Grangère et de ses ambitions déçues. L'évêque garda de son échec une plaie et une aigreur d'esprit dont se ressentit cruellement son diocèse et dont lui finit par mourir. L'abbé Hubertet, pour sa part, semblait ne point se lasser de vivre. Avec l'âge, son embonpoint naturel s'accrut jusqu'à l'obésité. Ses jambes courtes travaillaient à porter son gros ventre. Son quadruple menton retombait sur son rabat. Mais, malgré sa panse et sa lippe, il n'en restait pas moins de sens clair et prompt. Il avait conservé ses habitudes laborieuses. Sa corpulence tonnelait une malice de vin vieux, une odeur de bon cru. Sa bonhomie fleurait fin. Il devait sa graisse plutôt à une disposition de nature qu'à une existence particulièrement sédentaire. Ses longs voyages ultramontains l'habituèrent à supporter le froid et le chaud en toutes leurs intempéries. Partout, il vécut sainement et gaillardement, et sans que les moustiques même entamassent la peau qui tendait ses larges joues. « Je leur pardonnais, disait-il, car ils me rappelaient assez bien ce que j'étais moi-même. Je m'y comparais volontiers, tout en chassant de la main leur vol importun, j'en excusais l'insistance. Nous les haïssons à tort pour leurs bourdonnements et leurs piqûres. Nous attribuons une tracasserie exaspérante à ce qui n'est que la suite de leur instinct. Ils cherchent en notre sang la substance de leur vie et l'énergie ailée qui la rend heureuse, mobile et, si l'on peut dire, universelle. Ils font ce que je fais. Mon esprit bourdonne comme eux sur toute chose, y revient, la guette, l'environne, s'y obstine, s'en nourrit et promène en son vol léger sa curiosité continuelle. L'abbé Hubertet disait vrai. Né curieux, il le resta avec un goût toujours nouveau et toujours durable pour le spectacle des choses. Leur répétition quotidienne ne le lassait point. Une fois son travail achevé, il descendait, d'habitude, des hauteurs de son quartier vers quelques points de la ville choisis d'avance ou qu'il laissait le plus souvent, au hasard, le soin de déterminer pour lui. L'abbé Hubertet était un promeneur infatigable. Il marchait à son pas et s'arrêtait à son gré, sans aucune honte à rester planté là, pour peu que l'envie lui avait pris. Il regardait les passants et les boutiques. Toutes choses ont des rapports imprévus. C'est ainsi que le fruitier, derrière son étalage, lui apparaissait plaisamment comme un marchand de masques en plein vent. La mine allongée des poires n'y voisine-t-elle point avec la face joufflue des pommes? Les coins ne portent-ils pas sur la joue un duvet de jouvenceau? L'aubergine a la trogne vineuse d'un vigneron. La pêche offre son phare de grande dame. La citrouille représente le grand turc lui-même. Les fruits grimacent, ricanent, sourient, et l'abbé se plaisait à considérer que la nature déguise en leurs nombreux visages sa figure invisible qu'il diversifie de la leur. Et il marchait en philosophant de la sorte à sa façon. Une grande rumeur montait de tant de bruits divers où se mêlaient le grincement des roues et le claquement des fouets et tout ce murmure qui est comme la respiration même de la cité et dont il aimait à se sentir un des souffles passagers. L'abbé Hubertet aimait Paris et tout ce qui pouvait contribuer à l'embellir et à l'augmenter. Chaque maison qu'il voyait bâtir le réjouissait. Il prisait la bonne entente des échafaudages, la scie du tailleur de pierre, le rabot du menuisier, le maillet du charpentier était doux à ses oreilles. La truelle du maçon, gâchant son plâtre, lui caressait l'ouïe. Certes, il estimait les arts de la peinture et les toiles où les peintres représentent des nymphes et des dieux, mais il ne méprisait point ce que de plus humbles artisans tracent d'un pinceau naïf sur les enseignes de la rue et où ils figurent de leur mieux l'image des industries et des professions dont il signale à tout venant la présence et la nature. L'abbé ne dédaignait rien. La promenade des remparts valait à ses yeux celle de la râpée. Il descendait la courtille du même pas que le court la reine et regardait l'eau couler aux fontaines, pensant que nos jours n'ont guère d'autre but qu'elle. Ils emplissent notre mémoire de leur fluide transparence et en font comme un frais bassin où nous buvons avec elle les mirages que notre vie y reflète. Avec cela, pour rien au monde, l'abbé Hubertet n'eût manqué aucune des cérémonies qui sont les fêtes publiques de la cité. Il était au premier rang les soirs de feux d'artifice où l'on respire cette bonne odeur de poudre qui, même pacifique, flatte l'odorat populaire. Il se mêlait volontiers à la foule pour écouter avec soin les propos qui se tenaient autour de lui. Il en savourait la verdeur et le pittoresque et l'attrait d'y retrouver, plus cru et comme toute neuve, les images qui commencent par courir la rue avant de chercher logis et d'acquérir état dans la langue qui plus tard les épure et les poinçonne. Il estimait ce fond frustre et trivial du langage. Aussi disait-il assez bien que l'effigie commune d'une monnaie n'empêche pas la bonté de son métal, qu'il faut prendre à la vie de toute main, que le gros sol du faubourg a sa vertu propre non moins que la plus fine médaille d'Agrigente et de Syracuse. De sorte que l'abbé, par principe, mêlait volontiers en ses propos le langage des écoles à celui des halles. Il eût pu dîner, selon l'occurrence, chez Lucullus ou chez Ramponneau, au Porcheron ou à Tivoli. Quand il avait discuté doctement avec ses collègues de l'Académie quelques points de science ou d'histoire, il se plaisait, au retour, à voir charger un chariot ou démarrer un fardier et, tout en soufflant, il remontait la pente de sa rue, en se remémorant une ode d'Horace ou le juron d'un ivrogne rencontré.